Bonsoir à tous, bienvenue dans cette foire aux questions numéro 13. C'est bien ça, c'est on
C'est la
rappelle je
treizième.
la question à Maxime Actor. Donc foire aux questions numéro 13, on va essayer de faire un peu une revue de détails à la fois du bordel international, il n'y a pas d'autre mot pour le caractériser, de parler de la situation politique en France qui n'est pas moins bordéleuse à mon avis. Et puis essayer de réfléchir ensemble sur les municipales qui se profilent et on a un certain nombre de scrutins qui se sont déroulés là récemment, une législative partielle qui appelle peut-être à la réflexion sur les stratégies qui vont être mises en œuvre pour que la gauche, en tout cas au sens large, évite de se prendre la raclée du siècle. Voilà. En même temps, on va bien puiser des questions dans
Voilà,
le.
on rappelle le format, Serge. Bonsoir à
Oui,
toutes
alors,
et à
le
tous.
format.
Donc on est en direct. N'hésitez pas à poser vos questions. On est en direct avec vous pendant une bonne heure, directement sur le chat. N'hésitez pas, on répondra à un maximum de questions.
Alors, il y a la question, on va évacuer ça tout de suite parce que la question des lunettes d'Emmanuel Macron, je dois dire que quand j'ai vu ça hier, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas, on avait l'impression d'avoir Top Gun en direct depuis Davos, plus voyant que ses lunettes, il n'y avait pas. Bon, alors bien sûr, il a un petit problème de vaisseau sanguin, apparemment à un œil qui perdure, et on lui souhaite un prompt rétablissement parce que nous sommes des êtres humains. Mais sur le choix des lunettes, peut-être qu'un conseiller en communication aurait pu lui suggérer un modèle plus neutre, et en tout cas qui ne renvoie pas comme un miroir le côté bling-bling et de Trump. C'est-à-dire que quelle crédibilité finalement peut avoir le président de la République sur la scène internationale si à son tour il se met à singer les outrances vestimentaires de Donald Trump. Alors déjà qu'il n'a plus de poids politique parce qu'il est en fin de mandat, parce que il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale, et il est incapable de faire avancer le moindre projet. Mais si en plus il se déguise en pilote de guerre du dimanche, effectivement, ça va pas fonctionner, quoi. Voilà. Pour ceux qui ont regardé les chaînes info hier, c'était mon cas. On a regardé ça à l'Assemblée avec quelques confrères. Je veux dire, on n'a pas arrêté de rigoler d'après-midi, quoi. C'était invraisemblable comme mauvaise communication, et on est assuré que pendant un an et demi, tout le monde va ressortir ces images et bien évidemment s'en servir pour
Alors
le
bon,
bon.
je modère un peu parce qu'effectivement, ça paraît ridicule, mais à l'international et aux États-Unis, ça a vachement cartonné. Il y a des mèmes partout sur Macron, sur les réseaux sociaux, et apparemment à l'international, en tout cas, ça a fait ce qu'on appelle du flux, quoi. C'est la com aurait fonctionné. Mais pour nous, c'est vrai que là, il y a un vrai paradoxe entre tout ce qui est au national et à l'international. Mais moi, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu vois, par exemple sur X. C'est un délire, il y a Macron partout là.
Imagine-t-on le général de Gaulle avec des Ray-Ban en plus polarisés, hein, c'est des verres polarisants, donc c'est pour ça qu'il y a cet effet miroir. Voilà, donc ces verres, c'est même pas les Ray-Ban d'origine qui, elles, ne sont pas polarisées, donc ne renvoient pas l'image des gens. Celles-là, c'était vraiment caricatural. Et en plus, on n'a pas besoin d'avoir des lunettes polarisées. Je veux dire, c'est des lunettes qu'on peut employer sur glacier, à la neige. Moi, j'en ai une paire parce que je fais de la haute montagne et effectivement, il m'arrive d'évoluer en ski de randonnée sur des pentes glaciaires. Et là, on a une réverbération très forte. Mais enfin, sinon, le reste du temps, jamais on n'utilise ce type de lunettes. Voilà. Côté bling-bling, assumé.
On a une question, Serge, sur le chat de Franck 3382. Bonsoir, quel est de votre point de vue la position des différents groupes politiques français vis-à-vis des tentatives de Trump pour s'accaparer le Groenland?
Bah, je pense qu'il y a un gros embarras d'abord, parce que ce n'est pas du tout le problème que l'on attendait. On pensait qu'il allait y avoir un problème avec la question ukrainienne, la question de se substituer au retrait progressif des Américains sur l'armement. Donc tout le monde était, je dirais, configuré dans l'hypothèse de ce conflit. Alors il y a ceux qui, traditionnellement, pensent qu'il faut une grande conférence sur la paix, qu'il s'agit d'un conflit régional, somme toute, et que si on trouve un mode de résolution de la question du Donbass, il n'y aura pas une expansion russe qui se poursuivra sur d'autres territoires, par exemple les États baltes, mais pas que. C'est une première approche. Il y a ceux qui pensent à l'inverse
Mais
que
c'est qui, du coup, à ton avis?
je dirais que c'est plutôt du côté de la France insoumise, mais pas que, hein. Il y a des le, ça recoupe, ça ne recoupe pas exactement les découpages politiques et les lignes de fracture entre les différents partis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent ça aussi au Parti socialiste, au Parti communiste. Donc voilà, ou chez les macronistes, hein, il n'y a pas. Je dirais que l'appartenance politique française, nationale, ne joue pas sur la compréhension des phénomènes internationaux. En gros, il y a des gens qui disent tout ça, c'est un conflit régional, et si on le solutionne d'une manière qui satisfasse à peu près tout le monde, ben c'est fini, la guerre, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de bon. Et puis il y a ceux qui voient ça comme un signe préfigurant un conflit, ou plus exactement, qui pense que si on ne stoppe pas brutalement l'avancée russe, alors celle-ci se déploiera sur d'autres théâtres
Ça,
et notamment.
c'est plutôt macroniste, ça, non?
Non, c'est pas nécessairement
Ah ouais?
macroniste. C'est pas nécessairement macroniste. Il faut pas penser les questions internationales à travers le prisme politique
Ok.
national. C'est une erreur parce que il arrive que de temps en temps Macron ne dise pas une connerie et parfois même dise des choses pertinentes au niveau international. Le problème, c'est qu'après ça part en spirale et voilà. Hein, je me souviens encore de cette déclaration après le 7 octobre où il voulait une coalition internationale contre le Hamas, coalition militaire, et puis ça s'est terminé sur une position exactement inverse un an et demi plus tard. Donc on sait très bien que souvent Emmanuel Macron varie. Mais au-delà de ça, il faut réfléchir à cette question qui est aujourd'hui en gros. On va dire les mots classiques, hein. La ligne de partage entre les faucons, c'est-à-dire ceux qui pensent qu'il faut se préparer à la guerre, et puis les colombes, c'est pas simple à apprécier. C'est pas simple à
Et puis
apprécier.
c'est dilué dans un peu tous les partis, quoi, finalement, non?
Deuxièmement, il faut aussi s'interroger sur la meilleure manière d'éviter un conflit ouvert. C'est-à-dire que il faut aujourd'hui la réflexion des militaires, c'est comment établir une stratégie de dissuasion avec des forces conventionnelles qui ferait que les Russes renonceraient à poursuivre leur offensive en Ukraine parce qu'il y aurait trop d'hommes au sol déployés. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne passerait pas à l'escalade nucléaire, personne ne le veut. Mais nous, on a un trou dans la raquette. On a d'une part des capacités nucléaires avérées qui peuvent causer de sérieux dommages à n'importe quel adversaire. Mais en même temps, sur nos forces conventionnelles, elles restent à l'échelle, je dirais, hein, c'est une armée, non pas miniature, mais c'est une armée bonsaï. C'est-à-dire qu'il y a un peu de tout, hein, mais pas suffisamment. Voilà, on a des blindés, mais pas suffisamment. On a des avions, mais pas suffisamment. On a des forces spéciales, mais pas suffisamment. On a des avions ravitailleurs, mais pas suffisamment. On a des transports de troupes blindées, mais pas suffisamment. Voilà, donc on sait tout faire, mais on n'a pas assez de moyens. Et puis, il y a la question des munitions aujourd'hui qui fait que ça pose un problème. Voilà. Donc l'idée générale sur laquelle tout le monde planchait jusqu'à présent, c'était de dire. Comment on se débrouille pour finalement stopper cette guerre par une dissuasion conventionnelle. Et voilà qu'on se retrouve aujourd'hui avec une situation qui est assez nouvelle, puisque finalement Trump est en train de détruire l'OTAN. Hein, s'il y a agression contre le Groenland, c'est donc une agression.
Serge, est-ce que ça, à ton avis, dans les protocoles, c'était prévu qu'un pays de l'OTAN attaque un autre pays de l'OTAN? Est-ce que tu
Non,
penses?
pas du tout.
Parce que c'est ça la grande question. Est-ce que quelqu'un y a déjà pensé?
Non, mais parce que c'est inenvisageable. A priori, quand tu rejoins une alliance, c'est pas pour aller taper sur la figure du gars qui est à côté. Donc, cette agression contre un pays, contre un territoire autonome qui appartient à un pays fondateur de l'OTAN,
Donc
le
le
Danemark
Danemark.
est un pays fondateur de l'OTAN, c'est pas n'importe, c'est pas un rallié de la 25e heure. Un pays qui en plus a fait l'effort d'acheter des F-35 en veux-tu en voilà, histoire de se concilier les bonnes grâces de Trump, et qui se retrouve aujourd'hui dans une situation où, si on s'en tient quand même aux déclarations de Trump, certes, il semble renoncer à une action militaire, ou une action de vive force, comme disent les généraux, mais en revanche, il entend bien que s'ouvrent des négociations pour acheter le Groenland. Voilà. Donc, est-ce que c'est admissible? Non. Et donc, ça pose une question très simple. C'est que cette agression de la part du principal membre de l'OTAN contre un des fondateurs de l'OTAN remet en cause le traité de l'Atlantique Nord. Et donc, il va falloir penser un cadre de défense commun. Est-ce qu'il faut, ce qui se dit aujourd'hui, c'est qu'on irait plutôt vers un OTAN, enfin une OTAN, une organisation du traité de l'Atlantique Nord qui s'appellerait autrement et qui regrouperait 8, 9 États européens parmi les
Ça,
plus.
c'est le rêve de von der Leyen, non?
Non, c'est pas tellement le rêve de von der Leyen, parce que von der Leyen n'interviendrait pas là-dedans. Ce
Non, mais
serait
parce qu'elle
pas.
voulait, elle a toujours voulu l'Europe de la défense, donc ce serait ça finalement, peut-être.
Ce ne serait pas l'Europe de la défense, ce serait une alliance entre les 8 ou 9 principaux pays européens qui ont des capacités militaires conséquentes et qui sont capables d'aligner des troupes rapidement et qui en plus sont prêts à le faire. Voilà. Donc ça se ferait en dehors du cadre européen, enfin plus exactement de l'Union européenne, et ça se ferait dans un cadre nouveau à définir, mais qui serait grosso modo un. Le périmètre réduit de l'OTAN tel que ça existe aujourd'hui.
Alors, merci Serge. On a pas mal de questions là sur le chat qu'on va pouvoir traiter. On a Jaja sur le chat qui nous dit Serge, côté états-unien, il me semble que les républicains sont en train de larguer Trump dans sa politique ségrégationniste et de conquérant. Est-ce vrai? Alors le problème aux États-Unis, c'est que parce que là-dessus j'ai connu un petit peu. C'est si Donald Trump ose intervenir sans faire voter les institutions, donc la Chambre des représentants et le Sénat, bah, les représentants ont promis de le destituer, donc faire une action en impeachment. Mais le problème, c'est que déjà au Venezuela, il a fait ça comme il le voulait, sans aucune action légale, et ils n'ont rien fait. Donc pour le moment, moi je pense sincèrement qu'aux États-Unis, ce ne sont que des postures. Il faut voir vraiment s'il le fait, je ne l'espère pas. Je ne sais pas si Serge, tu veux rajouter quelque chose?
Le Venezuela, c'est un peu différent parce que c'est présenté finalement comme une opération de police. Hein. On est allé arrêter officiellement un trafiquant de drogue. On ne l'arrête pas d'ailleurs parce que c'est un dictateur, vous le remarquerez. Hein. Il n'y a pas de. À aucun moment, Trump n'a proposé un changement de régime, que se déroulent des élections libres, sous contrôle international. Que. Non, non, il s'entend. Il s'entend très bien avec la vice-présidente qui a pris l'intérim de Maduro. Et l'idée, c'était on écarte Maduro et uniquement Maduro. Voilà. Et on l'amène aux États-Unis. Il sera jugé, interrogé. Bon, voilà. Donc c'est de ce point de vue une opération de police. Et c'est pour ça que le Congrès est un peu coincé pour prendre une sanction. Mais s'il y a une opération de vive force au Groenland, là, ce sera un acte de guerre parce qu'il faudra rester sur le territoire. Ça ne va pas être projection de force. On ne va pas aller kidnapper le Premier ministre danois. Ou alors là, ça va commencer à poser un vrai problème. Donc, ça va être une opération avec un déploiement militaire sur le terrain. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, les pays européens ne sont pas, n'ont pas le logiciel, en tout cas, pour comprendre cette situation et y répondre de manière adéquate. Je pense qu'il y a aujourd'hui une grande incertitude sur ce qu'il faut faire. Il y a ceux qui pensent qu'on peut discuter avec Trump, se concilier ses bonnes grâces, le calmer, l'apaiser. Ceux qui pensent qu'il faut avoir une réponse ferme. Bon, alors c'est un peu ce qui se passe avec l'arrêt des négociations, la suspension des négociations sur les droits de douane, hein, à ne pas confondre avec le Mercosur. Mais la question du Mercosur pourrait être d'ailleurs un deuxième temps. Et puis, quelle riposte si les droits de douane augmentent dans des proportions vertigineuses? On parle de 200% d'augmentation. Bon, est-ce qu'on est capable d'encaisser le choc? Comment? Et de toute manière, il faut se poser la question de dire, il faut le faire. Il faut le faire. Il est clair que aujourd'hui, Donald Trump est en train de, dans l'échelle comment dire, des adversaires, c'est non plus ce n'est plus un partenaire, c'est déjà un adversaire et ce sera peut-être demain un ennemi. Faut le dire clairement, c'est pas, on n'est plus en train de parler de n'importe quoi. À partir du moment où il prétend faire main basse sur le Groenland, demain sur le Canada, sur une partie du Mexique jouer les shérifs en Amérique latine, il est clair qu'il se passe autre chose. Avec l'utilisation en plus d'expressions assez maladroites comme l'espace vital qui nous renvoie à un autre abruti qui voulait lui aussi organiser l'espace vital de l'Allemagne, on a un vrai problème là. Et un problème inattendu. Voilà. Mais ce n'est pas le seul problème puisqu'on énumère les problèmes géostratégiques qu'on va avoir. C'est
Alors,
tout un.
du coup, Serge, sur le chat, The Best Wilbert nous demande, les Russes disent quoi sur cette approche Trumpiste, justement?
Ah ben les Russes, ils sont très contents.
Bah oui.
Les Russes, ils sont très contents. Ça fait parce qu'à partir du moment où on commence à regarder à l'ouest, on regarde moins à l'est. Voilà. Et combattre sur deux fronts, on sait que c'est compliqué. Combattre, quand je dis combattre, c'est pas des troupes européennes au contact, mais c'est des manœuvres, c'est des troupes qui se prépositionnent, c'est un appui militaire consolidé aux Ukrainiens. Voilà, tout ça est très complexe. Et donc, c'est vrai que pour Poutine, ça soulage un peu la pression diplomatique internationale. Mais ça fait le jeu aussi des Chinois qui se préparent à envahir Taïwan. Ça va vraisemblablement se faire cette année. On a bien compris. Ce sera certainement très sanglant. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on a trois empires que plus rien n'arrête.
Tu
La
penses là
Russie.
vraiment que Taïwan, ça
Ben oui.
se...
Ces manœuvres répétées de la flotte chinoise aux abords de Taïwan, aujourd'hui,
Bah,
ces violations répétées de l'espace aérien de Taïwan, c'est plus des manœuvres
Ouais.
d'intox, c'est une répétition générale.
Le
Après, il
problème,
faut
c'est
toujours.
que Donald Trump a besoin des semi-conducteurs. Tu crois qu'il lâcherait Taïwan?
Oui. De fait, il l'a dit, il le fera, parce que c'est intenable, parce qu'il a besoin lui aussi de faire du business avec la Chine, avec la Russie, donc tout se négocie.
C'est vrai
Tout se
qu'il pourrait
négocie.
lâcher Taïwan en disant bah, c'est Biden qui s'est engagé, il a encore parlé de Joe
Ce qu'il
Biden
faut
aujourd'hui.
comprendre aujourd'hui dans la donne internationale, c'est la mondialisation heureuse, c'est fini. On a basculé dans le retour des impérialismes. On a trois empires. On en a un quatrième qui pourrait être l'Europe, mais qui malheureusement, à la fois n'a pas, qui est d'ailleurs peut-être le plus solide militairement et le plus solide économiquement, mais qui n'a pas l'unité politique qui lui permet d'exister comme un empire. Voilà. Il n'a pas le cadre qui permet de prendre des décisions, il n'a pas les chaînes de commandement, si j'ose dire, qui permettraient à cet empire d'exister, d'être au moins à hauteur des autres empires et de garantir les frontières de l'empire concerné, c'est-à-dire l'Europe. Voilà. Donc le problème, il est là. Et on est aujourd'hui dans une espèce de. Alors, ce n'est pas la guerre froide, mais c'est la guerre tiède. Voilà. Hein, on est en train de se tester les uns les autres. Les Russes nous testent, les Chinois nous testent.
Oui, tout le monde se regarde, quoi.
Deuxième chose, ça se combine avec une guerre économique. Voilà. C'est la nouveauté pour Donald Trump. L'objectif de cette guerre économique, c'est purement de détruire l'Union européenne. Donc oui. voilà, ça c'est la donne générale au niveau international qui fait qu'on va être quand même assez secoué cette année, vraisemblablement.
Du coup, Serge, une question de Ken14 sur le chat. Bonsoir, avez-vous déjà vécu ou traité un moment géopolitique aussi tendu dans votre carrière? Est-ce que tu en as
Moi,
connu d'autres?
non,
Oui,
le
toi.
moment géopolitique le plus bouleversant jusqu'à présent, c'était la chute du mur en 89. Voilà, parce qu'on se demandait tous qu'est-ce qui allait se passer ensuite. Est-ce que l'Union soviétique allait s'effondrer, ce qui s'est produit par la suite, mais dans quelle proportion, comment, est-ce que le réveil des nationalismes allait provoquer des guerres? Oui, on l'a vu, le nombre de conflits qui se sont développés, alors, conflits de basse, de moyenne ou de haute intensité d'ailleurs, hein, mais ça a été aussi des conflits régionaux, voilà, qui étaient plutôt sur la question de délimitation des frontières. Mais on avait à cette époque. Ça va être un peu choquant ce que je vais vous dire, mais quelque part, la guerre froide stabilisait le monde. C'est-à-dire qu'il y avait deux empires face à face, et cette guerre qui ne disait pas vraiment son nom, donc la guerre froide, hormis la crise des fusées en 62 à Cuba, où là, franchement, ça a failli déraper sévèrement, et en 1983, il y avait eu. Un tir de missile qui avait alerté les Russes et qui avait failli déclencher une riposte nucléaire. Et heureusement, grâce à l'intelligence d'un officier russe, le feu nucléaire n'a pas été déclenché. Donc, c'est pas sans danger tout ça. Mais il n'y a jamais eu cette situation complètement certaine où le nombre d'acteurs au même moment fait que c'est très difficile à stabiliser. Voilà, c'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui vers l'Ouest, c'est vrai qu'on regarde moins du côté de la Russie, les
Et de
solutions
la Chine, comme tu l'as
et de la
dit.
Chine. Voilà. Demain, s'il y a un conflit entre les deux Chines, ou si la Chine tente de récupérer Taïwan, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on intervient? Comment? Quelles solutions? Voilà, est-on en capacité d'intervenir Où faut-il intervenir? Bon, voilà, l'Ukraine, on peut considérer que c'est notre frontière, c'est la frontière de l'Europe, parce que sinon, demain, la question peut se poser avec la Pologne,
Bien
elle
sûr.
peut se poser avec la Roumanie. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fera?
Alors, Serge, sur le chat, hein, donc je répète, on est en direct, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous êtes nombreux ce soir, merci à toutes et à tous. On a Franck sur le chat qui nous dit, l'instabilité politique intérieure joue-t-elle sur notre position internationale? À ton avis, est-ce que ces problèmes de budget influencent notre position internationale? Moi, je ne pense pas, non? Ah oui?
Oui, ça joue énormément. Pourquoi? Parce que la France a une tradition qui est la tradition gaullienne, État indépendant, non aligné, et donc capable d'être à l'initiative de solutions ou de process diplomatiques. Voilà. Mais encore faut-il avoir l'envergure pour faire ça. Aujourd'hui, on a un président de la République qui est quand même un des plus déconsidérés de la Ve République. Je veux dire, les taux de popularité sont inexistants. Il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale. Ça fait 2 ans que la question budgétaire pose problème, ne serait-ce que pour adopter un budget. Il y a l'endettement du pays et il y a aujourd'hui une capacité militaire qui est en panne, puisque tant qu'il n'y a pas des budgets et des crédits pour relancer la machine, nos capacités militaires sont quand même assez réduites. Voilà. Donc, lorsque Macron va avec ses belles lunettes pérorées à Davos, il a du mal à être crédible. C'est ça le problème que ça pose. C'est que nous avons un président usé jusqu'à la corde, faible politiquement, impuissant militairement. Et tout le monde attend la suite.
Bah, je sais pas si tu as vu Serge, mais Trump, et je crois que c'était le représentant de la Fed, là, il parle du budget, il parle des problèmes pour se moquer, pour attiser l'instabilité en France, comme ça, un peu comme Poutine le fait souvent. C'est ça, bah, Macron, les problèmes de budget, et tout, hein, tous les problèmes politiques qu'on a traversés ces dernières années. Et c'est vrai qu'ils mettent le doigt là-dessus parce que c'est réel et ça trouve un écho chez des millions de concitoyens facilement, quoi.
Oui, alors je ne parlerai pas des États-Unis sur le plan économique, mais les Russes sur le plan économique ne tiennent que grâce à une économie de guerre qui a ses limites.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils se moquent de Macron justement à cause de tous les soucis du budget, par exemple, et les législatives qu'on a eues l'année dernière, enfin en 2024 du coup.
Enfin, nous on vote, hein.
Oui, non mais... Voilà. Bien sûr, mais tu vois, chez des concitoyens un petit peu perdus, ça trouve un écho.
C'est le procès de la démocratie par des dictateurs, que ce soit Poutine ou Donald Trump aujourd'hui.
Trump, pour toi, c'est un dictateur du coup, là ?
Non, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est un autocrate. C'est un autocrate qui marche sur un chemin qui sent très mauvais. Ouais. Et je ne suis pas persuadé, je souhaite qu'il n'arrive pas au terme de ce chemin. Mais c'est la première année. S'il y a encore 3 ans comme ça avec Trump, je ne sais pas dans quel état on retrouvera les États-Unis, déjà. Je rappelle quand même que les États-Unis, c'est une grande nation démocratique. Et que restera-t-il de la démocratie américaine? Ça, c'est la première question. Et que restera-t-il de nos démocraties? Voilà. Trump s'en fout complètement. C'est un autocrate.
Il l'a dit hein, pour les midterms, donc les fameuses élections là, de mi-mandat, il a sous-entendu qu'il n'y aurait peut-être pas d'élection. Ça, c'est incroyable.
Bon, on verra. On en verra. On en verra le nouveau Lafayette aider les insurgés.
Moi, je disais, c'est le moment de faire un bon film sur Lafayette. Tu vois, un très gros budget.
Si vous l'avez vu, qui s'appelle Civil War, qui est sorti il y a 6-8 mois, je crois, ou même un petit peu plus, et qui met en scène donc une guerre civile aux États-Unis avec un président américain qui est devenu un peu dingue, des États qui font sécession et un conflit. Donc, alors, et c'est vécu en plus, c'est pour ça que ce film a parlé à quelques confrères, c'est vécu à travers des personnages que sont des journalistes qui couvrent pour la première fois un conflit armé sur leur propre sol. Voilà. Ce qui est tout à fait différent. Les journalistes américains qui couvrent les guerres, c'est comme les journalistes français. En général, ça se passe à l'extérieur, quand ça se passe sur ton territoire. Et c'est assez bien réussi. Le film est quand même pas mal.
Mais peut-être que finalement, parce que tu vois, il y a Gavin Newsom, le principal concurrent aujourd'hui, donc c'est le gouverneur de Californie, qui dit, qui martèle partout que Trump est faible. Est-ce que finalement, ce serait pas un peu le poisson en train d'agoniser sur la berge, tu vois, Donald Trump actuellement?
J'ai pas l'impression, hein. Enfin, ou alors.
Mais en tout cas, c'est le propos de Gavin Newsom, tu vois, qui serait
le
favori.
Il est toujours commandant en chef.
Oui, mais c'est ça le problème, bien sûr.
Avec elle, voilà. De quoi parle-t-on ? On parle aujourd'hui d'opérations militaires. On parle pas de son magistère moral, intellectuel ou même politique. Voilà.
Et puis, il y a la police de l'immigration aussi aux États-Unis. Est-ce qu'il serait pas proche d'une guerre civile aussi de cette manière, c'est vrai que les problématiques sont multiples là pour les Américains. Et il y a aussi une question, Serge, enfin il y en a plusieurs hein, sur le chat, de Marianne. Bonjour Serge, pourquoi Trump a invité Vladimir Poutine à son fameux Conseil de la paix ? Parce que ça, c'est autre chose, Conseil de la paix. Donc le ticket d'entrée, paf, 1 milliard.
Mais parce que le Conseil de la paix est censé torpiller le Conseil de sécurité de l'ONU. Et essayer finalement de régler ça entre, je dirais, c'est un cynisme absolument fou. C'est des États les plus puissants créent une structure privée, hors contrôle, pour régler leurs différends. C'est finalement une commission d'arbitrage.
Je crois que Trump serait président à vie, je crois.
Oui, mais
de toute façon, pour la vie qui lui reste à vivre, on va dire. Mais
la folie complète, voilà, on est dans la mégalomanie complète. Mais il s'agit là, les objectifs de Trump, ils sont clairs. Il y a la destruction de l'Union européenne et il y a la destruction de l'Organisation des Nations Unies avec le Conseil de sécurité et l'héritage de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, il s'agit de dire maintenant, écoutez, fini de jouer, les plus forts, les plus riches, on se réunit et on se met dans un coin de la cour de récréation et on décide comment marche le monde.
Ce qui est assez dingue, Serge, sur ce Conseil de la paix, c'est qu'aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que la Norvège, la France et alors le Canada dit qu'ils n'allaient pas payer et je crois qu'il y a juste trois pays qui ont refusé catégoriquement, alors que beaucoup, en fait, acceptent d'y participer. Tu vois, Viktor Orban a dit qu'il veut être membre fondateur. Ça, c'est pareil. La Hongrie, qu'est-ce qu'on fait avec la Hongrie?
Oui, mais je pense qu'il peut être temps de dire au revoir à M. Orban. C'est peut-être aussi une réflexion qu'il faut avoir. Dans le cadre d'une nouvelle organisation militaire européenne, je pense qu'il faudra dire au revoir à M.
Ben,
Orban.
ça me semble évident.
Voilà. Et je pense que maintenant, la question qui se pose, c'est quelles frontières pour l'Europe et quel périmètre pour les structures de défense européenne? Mais il est clair que si on n'est pas capable d'aligner, je ne dis pas d'aller faire la guerre, moi je ne suis pas dans cette logique de préparons la guerre, etc. Mais si on n'est pas capable d'aligner, de montrer des signes extérieurs de force au niveau du continent, on va être piétiné. On va être piétiné, on va être écrasé.
C'est quoi des signes extérieurs de force pour toi?
Pour moi, c'est une capacité, sur le plan militaire, ce que je disais tout à l'heure. Aligner des forces conventionnelles en nombre suffisant qui fait que toute action armée contre à l'intérieur des frontières européennes serait extrêmement coûteuse pour l'assaillant. C'est ça l'idée.
Mais le
C'est de
problème,
dire.
Serge, c'est qu'un groupe aéronaval type Charles de Gaulle, on n'en a qu'un. Ça
Oui, il y a
met 20 ans, tu
ça.
vois.
Aussi bien qu'aujourd'hui, la guerre, ce n'est pas tellement un groupe aéronaval. Aujourd'hui, la guerre, c'est peut-être des drones. C'est
Ouais.
le conflit ukrainien nous a appris tout ce qu'on savait en termes militaires jusqu'à 2022. Aujourd'hui, est obsolète. Aujourd'hui, un drone de merde est capable de péter un blindé qui vaut plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc la question, il faut regarder aujourd'hui la nouvelle version du Charles Leclerc, formidable, blindage réactif, moteur transfiguré, tout ce qu'on veut. Et la question qui se pose, c'est comment on l'équipe pour éviter les attaques de drones. Voilà.
Alors
C'est.
Renault, a priori, va construire des drones, c'est ça?
Oui, mais apparemment, ce n'est pas des drones consommables, c'est plutôt des drones d'observation ou des drones qui ont des capacités militaires, mais qui sont finalement des avions sans pilote plus que des consommables. Voilà. Mais aujourd'hui, notre question, c'est comment on fait pour dissuader un agresseur de continuer son agression. Il est évident qu'on ne va pas utiliser la bombe nucléaire. Hein, donc, il faut être en mesure aujourd'hui d'aligner des troupes. Et ces troupes, elles existent. Hein. Si on additionne les armées nationales, il y a de quoi dissuader les uns les autres. Je pense que ce qui se fait au Groenland, d'aller prépositionner des troupes, elles sont là, elles ne vont pas arrêter une invasion américaine. Mais en revanche, il est clair que si ces troupes ont un mandat de défendre leur position ou de tenir leur position en cas d'action militaire des États-Unis, il est clair que ce n'est pas une promenade de santé. Et que là, ça pose les conséquences diplomatiques, politiques, internationales de cette action deviennent absolument ingérables pour Trump. C'est ça qui se profile. Mais ce qui est clair, c'est que cette année, on est à un moment de bascule. Ça, il faut bien le comprendre. On n'est pas dans. Il ne s'agit pas l'espèce de procès permanent qui est fait entre les va-t-en-guerre et puis les pacifistes. Non, non, on n'est pas dans ce schéma-là. On est dans un schéma de dissuasion. Et la dissuasion aujourd'hui, il faut empêcher des soldats étrangers de pénétrer à l'intérieur d'un certain nombre de frontières. Voilà.
Alors Serge, tu parlais de Taïwan là, il y a quelques instants. On a des questions un peu plus politiques à ce sujet, de Val Autoré notamment. Pourquoi la France insoumise est aussi timide vis-à-vis de l'impérialisme chinois alors qu'ils arrivent à être fermes contre les États-Unis d'Amérique et Israël? C'est une
Parce
question.
que c'est une excellente question. Moi, la réponse que je donne, elle ne plaira pas, mais je pense qu'il reste chez Jean-Luc Mélenchon, pour bien le connaître, hein, puisque je rappelle quand même que c'est pas d'hier que j'ai eu l'occasion d'échanger longuement avec lui. Il y a cette idée que finalement, tous les ennemis de l'impérialisme américain sont quelque part nos amis. Voilà. D'où une espèce de mansuétude à l'égard du régime chinois qui s'est construit par une révolution, la Longue Marche, Mao Tse-Tung, etc., etc., qui a été une boucherie, une barbarie absolue. Hein. Je veux dire, la révolution chinoise, c'est un crime de masse. Hein. Bon, mais peu importe, il y a cette idée que tous ceux qui sont contre, le mal absolu étant l'impérialisme américain, les autres impérialismes, quelque part, sont pas supportables, mais enfin...
sont moins pires.
Voilà. Et puis, il y a aussi, alors pour ceux qui font de l'exégèse doctrinale du trotskisme, il y a eu un concept qui a longtemps prévalu parmi les trotskistes et les anciens trotskistes, qui était le concept d'État ouvrier dégénéré. Concept qui consistait à dire que les pays qui avaient fait une révolution contre la bourgeoisie nationale et qui ensuite avaient basculé dans une espèce de totalitarisme, d'où la dégénérescence, restaient quelque part dans leur essence des alliés potentiels. Donc, dans les années 70, vous aviez des savants débats théoriques si, en cas d'une guerre entre la Russie et les États-Unis, il faudrait aider la Russie, enfin l'Union soviétique, contre les États-Unis. Fort heureusement, d'abord, ça ne s'est jamais produit, mais c'était les débats débiles de mes années étudiantes. Hein.
Et du coup, c'était quoi en général la majorité ?
Pardon ?
La majorité tendait vers quoi ?
Mais la majorité se disait quand même que c'était plus sympa d'aller vivre aux États-Unis que l'Union soviétique. Et je crois que ça a beaucoup contribué au final à la disparition de ces réflexions qui sont idiotes. Voilà. Mais cette mansuétude à l'égard des dictatures n'est pas simplement une espèce de fascination pour tel ou tel dirigeant. C'est une réflexion politique qui consiste à dire... Finalement, le cœur du capitalisme mondial, c'est les États-Unis. Et donc, si nous avons des gens qui luttent contre les États-Unis, ben, bravo, voilà. Donc, ça suppose un regard, comment dire... Oui, on ne s'attarde pas sur un certain nombre de choses quoi, quand on parle de la Russie ou de la Chine.
Oui, c'est pas de la complicité, c'est juste qu'ils ferment les yeux, quoi.
C'est pas de la complicité, c'est une analyse politique erronée, débile, à mon avis, voire criminelle, mais c'est une analyse politique. C'est pas une fascination de Jean-Luc Mélenchon qui se prendrait pour un dirigeant chinois ou un dirigeant russe. Ça repose sur un concept politique, celui que je viens d'exposer, l'État ouvrier dégénéré, mais qui est une ânerie conceptuelle.
Merci Serge. À l'autre bout de l'échiquier, du coup, une question de Jean-Rémy Scatena. Quelle est la position du Rassemblement National là sur Donald Trump actuellement ? Qu'est-ce que ça donne à l'extrême droite ?
Alors, ils sont incontestablement dragués par Trump. Trump a compris qu'il avait besoin de relais en Europe et particulièrement en France, mais il y a une ouverture en direction du Rassemblement National, d'où cette espèce d'intervention contre des magistrats qui instruisaient donc le procès contre Marine Le Pen, hein, cette espèce de vote.
Et ça, Serge, ça passe un peu sous les radars, mais c'est quand même dingue, non ?
Mais c'est complètement dingue, oui, mais aujourd'hui, il y a le trumpisme, c'est une réalité. Le trumpisme, c'est une réalité dans plusieurs pays et qui cherche à s'étendre. Voilà. Donc, il cherche des alliés, il cherche des relais. Donc, il faut bien comprendre que le Rassemblement National, c'est un parti qui a besoin aussi de relais internationaux. Et si le trumpisme n'est pas pour lui déplaire. Hein.
Mais du coup, là, quand même, j'espère que les gens vont le voir. Tu penses que ça va faire quelque chose dans les intentions de vote, là ?
Ils vont peut-être le voir, mais enfin, d'abord, rien ne dit que ça les effraie.
Ah ouais,
je suis désolé, mais il y a des gens qui pensent que ce que fait Trump est très bien. Il y a des gens qui disent qu'il faut un Trump français.
Donc, mais ça, c'est si Trump menace la France de manière systématique dans les prochains mois, imaginons, des millions de concitoyens, de nos concitoyens, soutiendraient Donald Trump.
Enfin, Maxime, je te renvoie à la Deuxième Guerre mondiale. Pardon.
C'est hier, Serge.
Je comprends
tout à fait, bien sûr, mais...
Il y a plein de gens qui trouvaient que ce que faisaient les nazis était très bien, au moins au début. Voilà. Et qui disait, en France, dans les années 30, il y avait des gens qui aspiraient à ce que la France.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc on est dans un moment années 30, quoi. C'est ça que tu veux dire.
Bon, donc aujourd'hui, le trumpisme, parce qu'il marque des points à l'échelle internationale, est perçu comme finalement le modèle qu'il faudrait suivre. Voilà. Indépendamment du mal que cet autocrate, ce despote fait à la France.
D'accord. Et on s'est vachement optimiste ce soir.
Non, mais, pardon de ne pas l'être. Je sais, c'est toujours un peu plombant, mais je pense qu'on est en train de vivre un moment charnière. Voilà. Alors, moment charnière, ça ne veut pas dire que on va tous se retrouver dans une situation de guerre partout. Ça peut très bien se dénouer. Je rappelle que la crise des missiles à Cuba, on était à deux doigts de la conflagration mondiale, et puis finalement, ça s'est terminé par la détente.
Sauf qu'on
Donc,
avait des représentants, on va dire, sages et érudits à l'époque.
on avait des représentants sages et érudits, mais enfin, bon. C'est passé pas loin,
Oui, mais
hein.
le problème, c'est ça, c'est que déjà, c'était des représentants, on va dire, standards. Donald Trump, il est hors standard. Et c'est ça le problème, c'est que tu l'as, je ne sais pas si tu as regardé à Davos, là, mais ça fait une personne âgée, un peu sénile, qui raconte, qui murmure, tout ce qui lui passe par la tête, quoi.
Ouais, mais enfin, sur les personnes âgées un peu séniles, Biden était un peu âgé et un peu sénile
Ouais.
aussi, donc on sort pas du truc, hein.
Ah, c'est vrai, c'est vrai.
Et l'âge moyen des dirigeants des puissances de ce monde ne sont pas non plus des gaillards de première fraîcheur. Bon, surtout quand ils restent longtemps au pouvoir, hein. Les bureaucrates chinois ne respirent pas la santé et la jeunesse. Voilà, et même
Alors,
Poutine.
qu'est-ce que t'expliques chez Donald Trump? Qu'est-ce que t'expliques cet accès, on va dire, de violence depuis le début d'année? Que ce soit à l'intérieur des États-Unis, avec ICE, la police de l'immigration, et l'international. Pourquoi ça s'accélère? Beaucoup de gens disent que c'est à cause de l'affaire Epstein, tout simplement, où Donald Trump est directement incriminé dans un viol de mineur. Est-ce que, à ton avis, ça a tout accéléré?
Bon, moi, les opérations militaires déclenchées pour masquer une situation interne problématique, j'y crois pas trop. Il y a toujours, alors bien sûr, ça tombe bien, mais il y a quand même une réalité, c'est que Trump s'est fait élire sur un programme qui s'appelle MAGA, Make
Oui.
America Great Again. Bon, refaisons de l'Amérique un grand pays, hein. Et c'est ça, la promesse, elle est là. Donc c'est une promesse impérialiste. Et c'est une promesse impérialiste dont la particularité de porter un paradoxe qui est de reprendre à son compte ce qu'on appelle la doctrine Monroe. Monroe, c'était un sénateur qui avait théorisé finalement une forme d'isolationnisme américain et de dire, bon, on n'intervient plus, on n'envoie plus des troupes partout, qui se démerdent, c'est pas notre problème. Nous, on intervient dans notre sphère d'influence, dans notre et en gros, c'était les frontières américaines plus le voisinage. Bon, et Trump a repris ça, a baptisé ça la doctrine Donro, hein, le D étant remplaçant le M de Monroe, mais c'est le D de Donald, et en disant finalement, il faut qu'on protège l'hémisphère occidental, et l'hémisphère occidental, c'est nous, et donc grosso modo, ça va du Groenland, Canada, et ce que je disais tout à l'heure, et en Mexique, et éventuellement, on reprend le Panama. On reprend le Panama, très important, et on reprend le nord du continent
Comment on
sud.
pourrait faire ça, Serge?
Pardon?
Ah, donc tu parles de la doctrine Monroe, parce que
Oui,
pardon.
je parle de la doctrine Donro. Voilà. La doctrine Donro, c'est la doctrine Monroe, revisitée par Donald Trump, avec un projet impérialiste. Mais c'est. Enfin, je veux dire, le
Et
problème,
tu.
c'est que on n'écoute pas suffisamment attentivement ce que disent
Oui.
ces gens. Aussi bien Poutine que Donald Trump. Ils n'agissent pas de manière cachée. Ils disent qu'ils vont faire un truc et ils ont derrière les moyens militaires pour le faire. Donc il y a une volonté impérialiste claire chez Trump qui se limite sur le plan militaire aux frontières immédiates des États-Unis, mais il y a une volonté aussi de détruire les empires qui peuvent faire concurrence, à commencer par l'Union européenne. La volonté de détruire l'Union européenne est une volonté avérée.
Mais est-ce qu'il ne serait pas temps de revendiquer la Louisiane, par exemple?
Oui, bah écoute, excellente idée.
Est-ce qu'on peut trouver une faille juridique dans la vente de la Louisiane? C'était en 1804, si mes souvenirs sont bons. Et faire jouer le jeu de Donald Trump. Bon, là-bas, en fait, la Louisiane,
Et
on la
si
reprend.
vous regardez, si vous avez un brin de nostalgie, si vous regardez ce que représentait la Louisiane de l'époque, c'est pas l'État de Louisiane, c'est quasiment un tiers des États-Unis. Aujourd'hui, ça coupait en deux les États-Unis, et c'était voilà. Et on se dit, tiens, on a vendu pour une bouchée de pain ce territoire.
Mais tu sais que
Voilà.
j'ai visité un Fort Vauban en Alabama, de Mobile, très beau, et c'est vrai qu'il y a un musée là-dessus sur tout ça. Donc la Louisiane, c'est, je crois, sur un territoire immense comme 5 ou 6 fois la France, il n'y avait que 30 000 habitants. Et c'est vrai qu'on l'a vendu pour une bouchée de pain pour financer les campagnes napoléoniennes. Mais ça, c'est très peu. Je crois qu'à l'école, on n'en parle jamais. Pourtant, c'est effectivement très, très, très intéressant.
Alors, il y a une question de petite olive ou petite Olivie. Comme il y a deux, je pense que c'est petite
Petite
Olivie.
olive.
Ah ben, il y a deux, c'est donc Olivie, hein. Qu'en est-il du contre-pouvoir encore présent aux États-Unis, par exemple la Cour suprême sur les tarifs et les rumeurs de destitution qui courent même parmi les républicains? Bon, la bonne nouvelle, c'est que 75% de l'opinion américaine est totalement opposée aux actions armées des États-Unis et surtout au Groenland. Donc il y a aujourd'hui une vraie fracture dans la population. La question, c'est que jusqu'au mois de novembre, Trump a les mains libres, c'est-à-dire jusqu'aux élections intermédiaires, hein, les midterms, et que ça nous fait quand même une dizaine de mois où on peut craindre le pire. Voilà.
S'il y a des élections, c'est ça le problème.
S'il n'y a pas d'élection, on change, oui, mais là, on sort du cadre, quoi. Donc là, on est en train de parler des contre-pouvoirs existants. Si l'autre dit il n'y a pas d'élection, à ce moment-là, bon, le droit à l'insurrection est aussi un droit qui vaut aux États-Unis, hein. Et en plus, c'est un pays où il y a quand même pas mal d'armes. Donc,
Petit peu.
un petit peu.
Un
On va dire
chouï.
ça. Voilà. Alors.
Moi, j'avais vu une question, alors attends, juste avant, parce que ça défile pas mal. Merci, hein, vous êtes quasiment 900 à nous regarder, 900 spectateurs en direct. Merci à toutes et à tous. Il y avait sur la puissance économique de. Ah oui, alors je retrouve plus. Ah, je crois que c'est Jaja encore, oui, merci. Est-il envisageable de remplacer totalement le commerce avec les États-Unis? Avec les pays de l'Afrique et de l'Asie. Par exemple, qu'on peut faire les vases communicants. On assèche les États-Unis et est-ce qu'on retrouve tout du côté de la Chine, du Japon, de l'Asie et de l'Afrique?
Bah avec la Chine, ça va être dur parce que c'est plutôt eux qui sont en train de se soulager sur notre marché intérieur. Tout ce qu'ils ne peuvent plus vendre aux États-Unis, ils les vendent à bas prix chez nous. C'est l'exemple de Chine. Hein, voilà, c'est-à-dire toutes les merdes pas chères vont inonder le marché européen et vont mettre en difficulté les entreprises européennes et surtout les producteurs européen. Donc ça, c'est le premier danger. Donc le commerce avec la Chine, ça va être compliqué pour le rééquilibrer. Avec l'Afrique, je dirais que le commerce avec l'Afrique, ce serait le débouché naturel, mais le problème, il y a une question aussi de pouvoir d'achat général au niveau africain pour acheter des biens de consommation qui sont, ma foi, assez sophistiqués. Donc est-ce qu'il y a des acheteurs pour ce type de biens? C'est compliqué. Voilà. Donc, il faudrait peut-être surtout immédiatement faire que le marché intérieur s'auto-alimente, soit un marché vertueux finalement. En termes d'échelle, aujourd'hui, on est un marché où c'est un des plus importants marchés mondiaux, le marché européen, et c'est en même temps un marché qui est composé de pays producteurs. On arrive à produire à peu près tout. Donc voilà. Alors, le problème, c'est qu'on a délocalisé pendant des années au nom de cette idéologie funeste qui était la mondialisation. On se disait, bah, c'est génial, fermons les usines et puis décentralisons tout ça en Chine, ailleurs. Voilà. Donc aujourd'hui, on a un tissu industriel qui est une passoire et on a beaucoup de difficultés. La seule filière qui demeure intacte, si j'ose dire, mais qui est indispensable aujourd'hui, c'est la filière militaire, où aujourd'hui on est capable de tout produire. Voilà. Absolument tout. Les avions, les blindés. On peut regretter que la manufacture d'armes de Saint-Étienne n'existe plus et que l'armée française s'équipe en armes allemandes, armes légères, j'entends. On aurait pu envisager, mais de manière, il va falloir renouveler à un moment donné les HK qui équipent l'armée française. On pourrait peut-être envisager d'ores et déjà de reproduire des armes pour nos propres troupes. Voilà. Et ce marché militaire, bien sûr, on pourrait convaincre nos partenaires, au lieu d'acheter des F-35 qui sont sous le contrôle des États-Unis, contrôle en termes de logiciel, on pourrait peut-être les convaincre d'acheter des Rafales qui restent un avion extrêmement performant.
Serge, moi j'ai une question plutôt personnelle. Qu'en est-il de nos voisins anglais? Est-ce que cette histoire, parce qu'on a Keir Starmer et même j'ai vu Nigel Farage qui a eu des mots assez durs, que Trump faisait du mal au Royaume-Uni, donc pour lui, autant dire que c'est énorme. Est-ce que tu ne penses pas que le Royaume-Uni pourrait reprendre une procédure d'adhésion à l'Union européenne?
Non, reprendre une procédure d'adhésion à l'Union européenne, j'y crois pas. En revanche, il y a une volonté de s'inscrire dans un cadre européen. C'est-à-dire que le Royaume-Uni est en train de revenir dans le giron européen, mais pas sous la forme de l'Union européenne, mais sous la forme d'une confédération, peut-être,
Une
pourrait-on dire.
CE, quoi.
Voilà, c'est-à-dire, en gros, ils disent, bon, ben, on peut travailler ensemble sur un certain nombre de chantiers. Mais on sort de cette espèce de système qui nous corsette. Et c'est le problème d'ailleurs aujourd'hui de l'Union européenne. Madame von der Leyen se conduit comme une chef d'État et elle n'est pas chef d'État. Elle
Ou
n'est pas
peut-être
chef
que le
d'État.
Royaume-Uni donnerait une impulsion pour une nouvelle Europe, nouvelle Union européenne.
J'y crois en moyen, mais en tout cas, il y a une volonté de travailler avec les Européens, parce que les Anglais ont bien compris que n'importe quel pays qui prétend jouer en solitaire dans cette espèce de partie mondiale qui est en train de se mettre en place va droit dans le mur. Aujourd'hui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Europe, moi j'aime pas, je ne suis pas un fan particulier d'Europe, hein, je pense qu'il faut être pragmatique, l'Europe existe aujourd'hui, c'est un cadre qui peut permettre à la France de se protéger. Voilà. Parce qu'on est aujourd'hui face à des empires. Donc, nos 64 millions de Français, ça pèse pas suffisamment lourd. Mais l'ensemble des Européens autour d'un projet commun, au moins de défense, ça peut changer le rapport de force. Voilà.
Merci Serge. Est-ce qu'on aborde le 49.3, le budget ou les municipales? Parce qu'il est déjà 19h25.
49.3. Alors, deux versions. Première version, salaud de traître socialiste. Deuxième version, on a évité que le budget soit pire. Voilà. Entre les deux, c'est ça, hein, c'est les deux récits qui sont faits ce soir et qui vont être faits vendredi lors de la discussion de la première motion de censure. Enfin, oui, des deux premières motions de censure, puisque je vous rappelle qu'il y aura six motions de censure en trois fois, puisque le projet de loi de finances, il y a le volet recettes qui fait l'objet de l'engagement de responsabilité du gouvernement. Ensuite, il y a le volet dépenses qui fait également l'objet d'un engagement de responsabilité du gouvernement. Ensuite, tout ça va faire un petit tour au Sénat. Que vont faire les sénateurs avec le projet de budget? Est-ce qu'ils vont le détricoter? Apparemment, non. Larcher aurait donné quelques assurances pour que ça reste dans le cosmétique, on va dire. Et puis, ça revient à l'Assemblée nationale pour un vote définitif avec une motion de censure, enfin, deux motions de censure, une du Rassemblement national et une de la France insoumise, des écologistes et du Parti communiste. Bon, donc ça fait trois occasions pour le gouvernement de se casser la figure. Ça fait trois occasions pour les oppositions de renverser le gouvernement. Et la question, qui est très importante, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui comment Sébastien Lecornu compte financer les concessions qu'il a accordées aux socialistes. Alors, comprenons-nous bien, ce que les socialistes réclamaient, c'était autour de 7-8 milliards de plus. Donc, ça, c'est la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des entreprises qui va couvrir ça. Elle était exceptionnelle, donc elle ne devait être utilisée que pendant l'année dernière. Elle est reconduite, donc ça va rapporter 7-8 milliards. Mais ce n'est pas suffisant pour arriver à un déficit qui soit égal à 5% du PIB. Aujourd'hui, on est toujours autour de 5,4-5,5. Lecornu a réitéré son intention de descendre à 5%. Ce qui laisse à penser qu'il va y avoir soit de nouvelles recettes fiscales, mais je n'y crois pas, soit plus exactement des coupes dans les dépenses et dans la dépense publique. C'est-à-dire que ce que l'on aurait concédé d'un côté, on le prendrait ailleurs.
C'est ce alors, que dit Éric Coquerel, ça, en substance.
Hein ?
C'est ce que dit Éric Coquerel en substance, notamment oui, le Pôle Express de lundi.
Tout le monde le dit, ça. Enfin, dès que tu regardes le truc, tu te dis, bon, c'est bien gentil, il vient de larguer 7 milliards aux socialistes, c'est la contribution exceptionnelle, ok, très bien, formidable. Ça, c'est réglé. Mais on est à 5,4 et comment on descend à 5 ? Et pour descendre à 5, effectivement, il va falloir tailler dans la dépense publique, ou bien, mais je n'y crois pas, parce que ça n'a jamais été la politique macroniste, ou bien augmenter les recettes fiscales, voilà.
Tu penses que les grandes entreprises, les ultra-riches, ça passera pas ?
Mais là, l'idée de Lecornu, c'est on n'augmente pas les impôts des ménages. C'est la frontière qu'a mis, la ligne rouge qu'a mis la droite. Voilà. Donc, on va taper sur les entreprises. Mais les entreprises, on peut taper que dans une certaine limite. Voilà. Donc, moi, je suis très curieux de savoir quelles recettes le gouvernement compte faire rentrer, ou alors, et je crois que ce sera plus ça, quelles sont les coupes qui se préparent. Coupes dans les secteurs...
Et ça, du coup, on ne le saura pas avant un moment, parce que vendredi, ça augmenterait les chances d'une censure, c'est ça ?
Ben, pour l'instant, on ne l'a pas. Comme la plupart de mes confrères, je lis souvent l'opinion. Alors, dans l'opinion, on a des bribes. Mais personne n'a la lettre qui dit ben voilà, on va faire comme ça. Donc on est en train, vous comprenez bien quand même la situation de dingue qu'on est en train de vivre. Les députés vont être obligés de se prononcer sur des recettes dont ils ne connaissent pas, plus exactement, ils vont se prononcer sur une motion de censure déposée en réaction à l'engagement de responsabilité du gouvernement sur un projet de loi dans sa partie recette, mais on ne connaît pas ses recettes. C'est absurde. On est bien d'accord, la situation est totalement absurde. On a un gouvernement qui aujourd'hui nous demande aux députés de se prononcer sur une situation dont ils n'ont pas l'ensemble des éléments pour se prononcer en leur âme et conscience.
D'ailleurs, sur le chat, on a Laurent qui nous reparle de la taxe Zucman. C'est vrai qu'on l'a enterrée déjà, celle-là.
Elle
ne peut pas revenir.
Elle ne peut pas revenir. Elle ne peut pas revenir. C'est la règle, je ne veux pas vous refaire l'exposé sur la règle de l'entonnoir, mais on ne peut pas réinjecter la taxe Zucman dans l'histoire. Hein. Donc.
Alors, du coup, Serge. Ce soir, mercredi soir, 21 janvier, à ton avis, vendredi, les chances de la censure, ça bouge, ça a changé ou tu restes sur ton avis de lundi dans le Pôle Express ?
Mon avis de lundi. D'ailleurs, à mon avis, ça m'étonnerait beaucoup que ça passe. Voilà.
On est toujours à 20-25 d'écart.
Je pense qu'il y aura, on va être franc, il y aura 5-6 députés socialistes qui censureront le gouvernement. Il y a la question des députés ultramarins de tous les groupes politiques, hein, que ce soit ceux qui sont membres de l'IOT ou ceux qui sont membres, par exemple, du groupe communiste, qui eux se prononcent en fonction d'intérêts locaux. et de situations locales. Voilà. C'est ce qui fait qu'à chaque fois, leurs votes sont tranchent avec les votes, je dirais, du bloc politique auquel ils appartiennent. Ils se prononcent parce que ils ont, pour eux, il y a des fois c'est intéressant qu'il n'y ait pas de censure, et d'autres fois c'est intéressant qu'il y ait une censure. Voilà. Donc ils prennent en considération leur mandant, leurs électeurs.
D'accord. Alors du coup, on a eu beaucoup de questions sur l'international et Trump. Je vois que ça passionne vraiment nos auditeurs, nos spectateurs ce soir. Et c'est normal, c'est l'actu du jour à Davos. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions sur le budget, sur les municipales. Serge, est-ce que tu veux parler un peu des municipales?
Oui, pour les municipales, la question maintenant va être de savoir comment la gauche, parce que c'est un problème qui se pose à la gauche, comment elle arrive à éviter la situation qui s'est produite, par exemple, avec la législative partielle à Orléans, où la candidate socialiste fait donc autour de 25%. Et le candidat LFI fait autour de 5 et quelques pourcents. Ensemble, la gauche aurait pu être au deuxième tour et écarter le Rassemblement national, diviser, eh ben, ni le Parti socialiste ni la France insoumise ne sont au second tour.
Oui, parce que du coup, c'est vrai que le RN n'aurait pas accédé au second tour.
Voilà, donc la question aujourd'hui, c'est est-ce que la machine à perdre est repartie? Mais cette question, moi je mets en garde tout le monde. Je veux bien qu'on pense ce qu'on pense de la France insoumise ou des socialistes, chacun a son avis là-dessus et tout. Simplement, je pense que la division va faire de sérieux dégâts pour tout le monde. Ça, c'est évident. Et cet exemple d'Orléans, alors on dira oui, mais la participation, elle était en baisse, vous comprenez, c'est une législative partielle, c'est pas un exemple probant. Non, c'est un exemple probant. C'est un exemple probant que chaque fois qu'il y a de la division à gauche, la gauche perd. Voilà, c'est simple, il faut le savoir. Après, on peut considérer que le socialiste, c'est pas la gauche. Hein. Moi, je sais, je lis les commentaires. Il y a des gens qui me disent, les socialistes, c'est pas la gauche. Bon, donc la gauche en France, c'est plutôt quoi, 10%. Bah, si c'est 10%, ok, on peut considérer les choses comme ça, dire que hein, chacun dit la vraie gauche, c'est nous. Les socialistes disent la vraie
Ouais.
gauche, c'est nous. La France insoumise dit la vraie gauche, c'est nous. On a compris, les projets politiques sont différents, les stratégies sont différentes. Voilà, ok. Mais une fois qu'on a terminé avec les noms d'oiseaux, etc., la question c'est comment on fait pour. S'il s'agit bien de ça, après on peut dire on s'en fout, si le Rassemblement national accède aux responsabilités, ben, tant mieux. Bon, ok, on peut le considérer. Je pense que du point de vue d'un électeur du Rassemblement national, il est très content de la situation. Ouais. Et comment. Voilà, je sais qu'il y en a qui regardent pure politique, hein, donc je veux pas. Moi, mon problème, c'est pas d'arrêter de faire face, machin. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'exposer aux gens quelque chose qu'on a connu à plusieurs reprises dans plusieurs familles politiques. Un temps, c'était à droite que ça se produisait, ce genre de choses. La machine à perdre, c'était à droite. Là, ce qui est clair, c'est qu'au municipal, la machine à perdre qui est enclenchée, c'est la machine à perdre de la gauche.
Alors du coup, tu as été au meeting d'Emmanuel Grégoire la semaine dernière, donc c'est le sujet du Bourbon. Donc là, Emmanuel Grégoire, bon, bah, sans aucun doute, a accédé au second tour, mais l'histoire, c'est que Sophia Chikirou n'est pas certaine d'être qualifiée pour le second tour, c'est ça?
Alors voilà, les règles à Paris, Lyon, Marseille ont changé. Donc, si on a plus de 10%, hein, maintenant c'est l'élection du maire et les élections des maires d'arrondissement, c'est deux choses différentes. Voilà. Si on a plus de 10%, on peut rester au deuxième tour. Là, ça pose une question simple, c'est une triangulaire et qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est la question qui se posera à Mariani, par exemple, le candidat du Rassemblement national. Si jamais il arrivait à 10%. C'est pas évident. Sarah Knafo, elle est donnée autour de 9% aujourd'hui sur Paris. 9%, quand tu es à 9%, tu peux, si tu fais pas trop de conneries, tu peux être à 10%. Voilà. Mais la ligne de reconquête, c'est plutôt l'union des droites. Donc il y aura, je pense, une négo avec le reste de la droite, bien que Rachida Dati s'en défende et que je pense que Sarah Knafo aura suffisamment de sièges au conseil municipal de Paris si elle aide Rachida Dati à franchir l'obstacle. Alors après, la question, Sophia Chikirou, elle a. Au départ, c'était comme Grégoire ne voulait pas d'insoumis, enfin ne voulait pas passer d'accord avec les insoumis, estimant que finalement il ferait un meilleur score sans les insoumis. Bon, très bien. Aujourd'hui, Sophia Chikirou, enfin pas aujourd'hui, mais dans le Figaro, Sophia Chikirou a dit si il change d'attitude vis-à-vis des insoumis, à ce moment-là, tout est possible au second tour. Mais la question, c'est combien pèsera-t-elle au second tour?
Si elle
Alors,
fait 12, si elle fait 12%, par exemple, Serge,
elle fait
imaginons.
12%, elle peut se maintenir. Entre 5 et 10, on peut fusionner une liste. C'est-à-dire, la liste insoumise peut fusionner avec la liste Grégoire et ça devient une liste d'union de la gauche. Mais c'est ce qui se passera, je pense, entre Rachida Dati et
Et
Sarah
Knafo.
Knafou, ou les
Et Sophia Chikirou ne pourrait pas se retirer. C'est ça le problème. Si elle fait 12%, par exemple.
C'est rien. En l'état, elle a expliqué qu'elle ne comptait pas se retirer, hein, puisque sa déclaration, c'était si Grégoire ne veut pas d'insoumis, donc il y aura pas de. Nous, on ne veut pas de socialistes. Voilà. Donc, bon courage, les gars, pour gagner une élection, quoi. Voilà.
Après, il y a la même problématique à Marseille avec Payan et Delogu face au Rassemblement national.
Oui. Ben, c'est-à-dire que le Parti socialiste aujourd'hui est en train on va dire les choses telles qu'elles sont, est en train de tester une nouvelle stratégie qui est de dire est-ce que finalement on ne peut pas gagner tout seul? Voilà. C'est une question qui revient le Parti socialiste, les dirigeants du Parti socialiste estiment qu'ils ont plus de chances de l'emporter s'ils vont à la bataille tout seuls. Que s'ils vont dans le cadre de l'ancien Nouveau Front Populaire ou de la NUPES ou d'une alliance de circonstances. Voilà. Arithmétiquement, ça reste à démontrer. Donc les municipales vont être intéressantes de ce point de vue. Mais la législative partielle que nous venons de voir montre que, comme on pouvait le pressentir, c'est plutôt un mauvais calcul. Quand on divise les voix en général, hein.
Ça,
Mais
c'est
après,
évident, ça a toujours été évident.
chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je suis un commentateur, je regarde, je dis simplement, mesdames et messieurs, regardez ce qui s'est passé à Orléans, essayez d'en tirer quelques conclusions intelligentes, mais c'est à vous que ça appartient. Moi, je suis pas là pour dire bravo la France insoumise ou bravo le Parti socialiste. D'un certain point de vue, voilà, je regarde ce qui se passe et j'essaye d'expliquer. Mais là, on a eu l'exemple même, franchement, du naufrage complet de la gauche. 11 voix. Je rappelle que la
Ouais.
socialiste, il s'en est fallu de 11 voix. Voilà.
Ouais, parce que du coup, après, elle avait des réserves de voix et tout était possible, quoi.
Donc maintenant, ça se joue entre Stéphanie Rist, la ministre, et le candidat du Rassemblement national qui. Croyez pas y arriver, quoi. Ça a été une excellente surprise pour lui, voilà.
Alors Serge, tu parlais de la machine à perdre qui était à gauche, mais est-ce que, bon, ça là c'est pas les municipales, mais sur les présidentielles, est-ce qu'elle serait pas aussi à droite? C'est une question de AG1291 sur le chat.
Y a un déficit aujourd'hui de leaders. C'est curieux, mais c'est comme ça. À droite, on a bien compris que messieurs Wauquiez et Retailleau, il n'y en a pas un qui lâchera devant l'autre. Donc à un moment donné, ça va poser un problème. Alors chacun joue sa partie. Wauquiez a repris du poil de la bête parce que Retailleau, depuis qu'il n'est plus ministre, a perdu un peu en audience, en notoriété, et finalement est retombé. Parce qu'à mon avis, il a mal joué. Il avait quand même une certaine audience par sa fonction de ministre. Aujourd'hui, il n'est plus grand-chose. Il est sénateur, c'est très bien. Il va écrire un bouquin, ok, formidable, mais ça parle moins aux gens. Voilà. Il était. Quand tu es ministre de l'Intérieur, ça parle plus aux gens que quand tu es sénateur au Palais du Luxembourg, surtout vu la piètre opinion que l'opinion, justement, a des sénateurs.
Alors, j'ai vu que Wauquiez appelle une primaire de la droite jusqu'à Sarah Knafo, mais sans le RN.
Oui, mais chacun appelle à la primaire qui l'intéresse. Je te rappelle que la primaire de la gauche format Bagneux ne
Ouais,
prévoit pas
c'est pareil.
que la France insoumise se joigne à cette primaire, parce que justement la France insoumise ne veut pas d'ailleurs participer à cette primaire, mais Place Publique non plus. Donc chacun organise la primaire qu'il peut organiser. Voilà. Le RN, de toute manière, il va y avoir quand même aussi un petit problème rapidement avec au sein du Rassemblement national, parce que moi je veux bien qu'on me dise ah c'est formidable, Jordan, Marine, ah, c'est l'amour fou. Non, c'est pas la même ligne, tout simplement. Jordan Bardella est sur la ligne de l'union des droites. Marine Le Pen reste sur la ligne qui a permis au Rassemblement national de se développer, qui est ni droite ni gauche. Voilà. Et entre les deux, il va y avoir un souci rapidement. Ce n'est pas la même ligne, quoi qu'on en dise. Certes, Marine Le Pen dit machin, la responsabilité économique, on ne fait pas n'importe quoi, nous sommes des gens sérieux et tout, mais la ligne, ça reste ni droite ni gauche pour Marine Le Pen. Jordan Bardella, c'est fédérer l'union des droites, y compris
Ouais.
voire dissoudre le Rassemblement national dans une espèce d'union des droites au profit d'un certain. Et à condition qu'il en ait les commandes. Et cette divergence politique, elle va faire du dégât au sein du Rassemblement national le moment venu, d'autant que je rappelle, c'est la fameuse théorie, mais qui n'est pas qu'une théorie, la différence entre le Rassemblement national du Nord et celui du Sud de la France. Celui du Nord obéit à des motivations essentiellement sociales. Celui du Sud obéit essentiellement à des motivations xénophobes, voire racistes. C'est pas du tout la même clientèle électorale. Quand tu fais ni droite ni gauche, tu arrives à fédérer ces deux clientèles. Quand tu fais l'union des droites autour d'un programme ultralibéral, dans le nord de la France, ça passera moins.
D'accord, merci Serge. Est-ce que tu vois encore quelques questions sur le chat? Parce que maintenant les thèmes abordés sont un petit peu divers. Alors c'était surtout sur l'international. Ça parlait beaucoup aussi de l'Union européenne, forcément. Alors toi, j'avais vu une question là-dessus. Est-ce que tu penses que l'Europe ou l'Union européenne va survivre à ce qu'on est en train de traverser?
Je pense qu'elle est obligée de se transformer et de se réinventer. Ça veut dire y compris peut-être se séparer d'un certain nombre de pays qui choisiront d'être les vassaux des États-Unis.
Donc la Hongrie, direct.
Oui, voilà, je pense. Mais de toute manière, ça fait très longtemps, on va arrêter de se raconter des histoires. Ça fait très longtemps que M. Orban se situe, c'est un pas en dehors, un pas à l'intérieur. Bon, il est peut-être temps de dire au revoir à M. Orban, hein.
Mélanie, qu'est-ce qu'on fait du coup avec l'Italie?
Alors, Meloni,
Et là.
pour le coup, c'est une de nos proches partenaires, même si c'est pas forcément la même coloration politique, mais Meloni, il va falloir faire avec elle, de toute manière. C'est-à-dire, on va pas faire uniquement avec les sociolibéraux et les sociodémocrates. Il va falloir aussi faire avec des gens qui sont des dirigeants autoritaires, voire illibéraux.
Tu connais le calendrier électoral en Italie, là?
Je l'ai pas en tête. Je l'ai pas en tête.
Parce que bon, elle va pas rester non plus des siècles, hein, mais oui, l'Italie, il faut forcément qu'on fasse avec. Mais par exemple, si on enlève la Hongrie, imaginons une petite fiction qui ne sera peut-être pas fiction dans quelques mois, qu'est-ce qui se passerait? Comment ça fonctionnerait?
Bon, d'abord, pour sortir de l'Union européenne, il y a tout un processus. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas ciao les gars, je m'en vais.
Non, mais si par exemple il y a des menaces, tu vois, des menaces de guerre, etc., si vraiment on est dans procédure accélérée, est-ce qu'on peut vraiment pas mettre un coup de pied aux fesses d'un pays? C'est pas possible.
Non, parce que, encore une fois, une alliance militaire au niveau européen se fera en dehors de l'Union européenne. Ça va se faire avec des pays qui veulent ça. En gros, c'est 7, 8, 9 pays, voilà, qui ont à la fois des capacités militaires, des capacités de projection, et qui sont d'accord pour être je dirais, le bouclier, et le glaive, de l'Europe. Mais ça se fera donc dans un cadre nouveau qui sera, à mon avis, l'héritier, de l'OTAN. C'est-à-dire que l'OTAN, sous sa forme actuelle, on a bien compris que l'acte de décès vient d'être prononcé par Donald Trump. Donc l'OTAN est morte. Voilà.
Et du coup, ça va peut-être rendre caduque en fait l'Union européenne. Peut-être que l'Union européenne va se déliter.
L'Union européenne, ça n'a rien à voir.
Non,
L'Union
mais.
européenne, c'est un grand marché, c'est tout. C'est un grand marché. L'Union européenne ne s'occupe pas de questions militaires. La défense européenne, c'est une alliance. C'est une alliance avec des pays qui le veulent, qui ont les capacités de se mobiliser et qui peuvent aligner des forces. Voilà. C'est eux qui sont en mesure de dire, donc je dis et je répète, c'est 8, 9 pays qui peuvent organiser ça.
Je regarde le chat, on va pas tarder à conclure, je pense. Alors, il y a Léon, c'est vrai que c'est intéressant, Léon SK 2236 qui nous dit un mot sur l'extrême gauche en vue de la présidentielle. Alors, quand on dit extrême gauche, hein, pour nous, c'est pas la France insoumise. Je pense qu'il parle
Le NPA.
d'Italie Artaud, de Poutou, du NPA. Est-ce que ça bouge un petit peu de ce côté-là?
J'ai pas le sentiment, hein. Je veux pas être méchant avec eux, mais la France insoumise aspire beaucoup de leur espace naturel. Voilà. Leur radicalité a du mal à se faire entendre à côté de la radicalité de la France insoumise. C'est-à-dire, en gros, si tu penses aujourd'hui, si tu te situes à gauche et tu penses que il faut une rupture radicale avec le système, y compris brutal, etc., tu as une offre politique qui est celle de la France insoumise et qui est mille fois plus structurée, organisée, pensée, réfléchie que le NPA ou Lutte ouvrière. Voilà. Et en revanche, si tu penses qu'il faut aujourd'hui privilégier une solution de compromis, de petits pas, j'allais dire une solution de syndicalisme ou de réformisme politique, tu tourneras plutôt vers les socialistes, en sachant, je le mettrai d'ailleurs dans le Bourbon de demain, Stéphane Peu, le patron des députés communistes, nous a fait... Il m'a répondu à une question que je lui posais en lui disant, mais quel regard vous portez sur le Parti socialiste? Et il nous a expliqué quel était le problème du Parti socialiste. C'était assez bien fichu sa réponse en disant que tout le problème d'Olivier Faure était d'arriver à se dégager de la gangue du hollandisme et qu'il était en permanence rattrapé par cette gangue en question. C'est-à-dire que lui, ce qu'il mettait en cause, c'était non pas le Parti socialiste dans son ensemble, mais cette moitié du Parti socialiste qui n'a pas renoncé à refaire du hollandisme à la première occasion venue. Voilà. Donc la moitié du Parti socialiste. Et donc du coup, après, vous verrez la réponse du Parti socialiste, puisque j'ai posé la question à Arthur Delaporte à partir des propos de Stéphane Peu, et Arthur Delaporte, le porte-parole député du Calvados, qui est un garçon charmant par ailleurs, mais là, il était un peu tout rouge, quoi. Il était assez en colère, voilà. Bon. Mais le débat était intéressant. Pour le coup, il y a un vrai regard sur ce qu'est le Parti socialiste. Et je le rappelle, il ne faut pas regarder le Parti socialiste comme un parti monochrome. C'est un parti qui est composé de courants qui, historiquement, sont bien différents et de gens qui, certains, se projettent davantage dans l'avenir que d'autres. Voilà. Pour dire clairement, aujourd'hui, François Hollande pense que peut-être il y a une petite ouverture pour lui à un moment donné, voilà, et qu'il pourra revenir sur le devant de la scène en faisant le roi du scooter.
Bonjour.
Et bonjour, c'est moi. Et personnellement, je pense que ce sera catastrophique. Mais s'il fait ça pour lui, hein,
Ça
je
fait une
pense.
Hidalgo, non? Un truc comme ça, quoi.
Ben, c'est surtout que je pense qu'il sera obligé de se présenter tout seul, parce que je vois mal le Parti socialiste appuyer la candidature Hollande. C'est trop clivant. Ils ne veulent pas revenir à ça. Ils ne veulent pas revenir à ça. Voilà. Au moins, l'équipe qui est aujourd'hui aux commandes. C'est pour ça qu'il faut. Moi, je lis tous les commentaires, machin. Olivier Faure, gna gna gna, et tout. Il a la traîtrise dans le sang, et tout. Bon, faut arrêter. C'est de la politique, hein. On n'est pas non plus. Voilà. Moi, je pense que du point de vue du Parti socialiste, ils avaient raison de négocier jusqu'au bout. Je pense qu'en revanche, ils ont fait la connerie du siècle en acceptant le 49-3. Pourquoi? Parce que tu peux pas, il y a un moment donné, il faut être cohérent, tu peux pas dire le préalable de la négociation, c'est la renonciation au 49-3 et ensuite dire à la fin, bon ben maintenant qu'on a négocié, reprenons le 49-3. Non, le 49-3 est une arme qui tue le parlementarisme. Donc la question c'est, il fallait prolonger. Et puis, il fallait prendre le risque que le gouvernement, à un moment donné, ait une démarche autoritaire, mais sans l'appui des socialistes. C'est-à-dire dire, ben, vous voulez utiliser 49-3, très bien, on votera contre. Voilà.
Ouais, ça aurait pu changer un peu les
Je veux
choses.
dire, le problème du Parti socialiste, c'est qu'à un moment donné, ils sont retombés dans les ornières qui étaient les leurs auparavant. Comme ils ont utilisé le 49-3 à plusieurs reprises lorsqu'ils étaient en responsabilité, donc ils retombent dans cette ornière et ça ne parle pas aux gens. Alors qu'il y avait toute une démarche pédagogique de négociation, de dire on est dans le parlementarisme, il n'y a pas de majorité, donc négocions et voyons ce qu'on peut lâcher les uns les autres. Ça peut être entendu par l'opinion. À partir du moment où ça passe par un 49-3, ce n'est plus entendu par l'opinion. Et je pense qu'ils ont commis une erreur politique importante. Voilà. Mais c'est leur problème, hein, c'est pas le mien.
Serge, pour conclure, est-ce que tu as un regard sur les 30 ans de la mort de François Mitterrand?
Oh!
Parce que je sais que tu voulais en parler
Non,
dans
ce
un
que je voulais
sujet, mais
raconter,
tu as dû
voilà,
couper.
on va la faire très courte. Pour ceux qui le savent et ceux qui ne le savent pas, je fus longtemps journaliste dans un hebdomadaire qui pétait le feu et la forme, qui s'appelait L'Événement du jeudi, qui était l'équivalent de l'Obs et de l'Express, qui a été ensuite concurrencé par Marianne, mais qui était dirigé par Jean-François Canet. Et à l'époque, on avait beaucoup de moyens, et c'était très agréable, c'était un hebdo iconoclaste. Et donc, j'avais un confrère m'avait aiguillé sur les intentions de François Mitterrand de se faire inhumer au sommet du Mont Beuvray, dans le Morvan. Et donc c'est un site inconstructible puisque ça appartient au parc régional du Morvan. Et donc en plus le Mont Beuvray, pour la petite histoire, c'est au pied de la montagne s'élevait l'antique cité gauloise de Bibracte. Et cette cité gauloise de Bibracte a permis à Vercingétorix de fédérer l'ensemble des tribus gauloises, celles qui avaient lutté contre l'envahisseur romain, comme celles qui avaient collaboré avec l'envahisseur romain. C'était le cas des Éluens, voilà, hein, si je dis pas de conneries sur le nom de la tribu. En question. Et le parallèle avec François Mitterrand, quand on connaît son histoire, ses relations avec Vichy, puis son entrée tardive et modeste dans la résistance, il est évident que on comprenait bien pourquoi ça lui tenait à cœur d'être enterré au sommet du Mont Beuvray. Et donc, il devait être inhumé au sommet du Mont Beuvray avec Daniel Mitterrand. Moi, j'ai mené ma petite enquête, donc je suis allé sur place, j'ai rencontré des tas de gens et tout, et puis on est allé au conservatoire des hypothèques, on a trouvé sur le cadastre la parcelle, l'acte de propriété, etc., etc. Et donc, j'avais fait un papier que j'avais intitulé « Le dernier secret de François Mitterrand », qui nous a valu donc alors d'être traînés dans la merde pendant des semaines sur le thème. Matin, j'avais mis la radio, j'avais entendu Daniel Mitterrand me traitait de sombre merde, enfin machin, j'étais pire que tout. Tout ça pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé, c'est que pourquoi François Mitterrand n'est pas enterré au sommet du Mont Beuvray, c'est grâce à moi. Voilà, j'ai sauvé le parc régional du Morvan et j'ai surtout évité qu'un mausolée aille s'ériger au sommet d'une montagne qui est quand même très sympa. Donc du coup, François Mitterrand est à Jarnac et il est enterré sans Daniel Mitterrand, puisque le caveau des Mitterrands ne permettait pas d'abriter la dépouille de Daniel Mitterrand. Voilà, ce qui m'a été beaucoup reproché. Alors pour la petite histoire, le directeur de publication de l'événement du jeudi à l'époque s'appelait Albert Duroy. Et gentiment, Jean, il me dit, écoute Serge, je ne peux plus foutre les pieds dans un restaurant à Paris sans qu'on me parle de cette histoire, sans me faire injurier. Parce que finalement, j'avais touché à tout le mythe de François Mitterrand, la mort, les dernières volontés d'un mourant, le grand homme, etc. Enfin voilà. Mais je dois dire qu'à l'événement du jeudi, on m'a soutenu, on m'a laissé bosser et on m'a encouragé. Et ça, c'était Jean-François Kahn qui avait son caractère et ses têtes, mais on pouvait faire ça. Voilà. Et on pouvait désinguer les puissants. Voilà. Donc c'était la petite anecdote que je voulais vous raconter. Et pour la fin, j'avais pensé la raconter dans un bourbon et tout, mais enfin bon, c'était pas tellement le lieu. Mais là, comme on est entre nous, si j'ose dire.
Attends, il y a Okno sur le chat qui dit on n'a rien compris, pourquoi il n'a pas été enterré là-bas du coup. Dis-le, t'es un petit peu sévère. Non, c'est juste que parce que c'était interdit, c'était un parc régional dans le Morvan.
Oui, c'est interdit. Personne ne peut se faire inhumer là-bas. Donc là, il avait préempté une parcelle de 10 mètres sur 10 mètres, délimitée. Et il y aurait eu un mausolée au sommet du Mont Beuvray. Et qu'est-ce qui serait passé? Le dimanche, au lieu d'avoir les gens de la région qui font du VTT ou qui vont aux champignons ou tout ça, on aurait eu, comme à Colombey les deux églises, des tas de gens qui seraient venus s'incliner devant la sépulture du grand homme. Je pense que la place des sépultures est dans des endroits dédiés, ça s'appelle des cimetières. Voilà, et pas en pleine nature, parce que Mitterrand pensait s'inscrire dans la continuité de Vercingétorix. Je rappelle que au pied du Mont Beuvray, aujourd'hui, il y a une gendarmerie qui dispose d'effectifs disproportionnés par rapport à la zone, tout simplement parce qu'on avait prévu une surfréquentation du massif et donc on avait construit des locaux pour la gendarmerie. C'est ça d'ailleurs qui a alerté au point de départ l'attention des riverains. Et on s'est dit, mais pourquoi tant de gendarmes concentrés dans un endroit où ils passent trois écureuils et deux sangliers, voilà, bon. Mais après, on a compris, il y a eu une espèce de musée qui ramassait tout ce qu'on avait trouvé sur le site de Bibract, mais qui était surdimensionné aussi. Le site de Bibract ne mérite pas le musée de la taille qui est celui aujourd'hui au pied de Bibract. Donc, on avait bien compris que certaines salles pourraient être dédiées au souvenir du grand homme. Voilà, bon, pardon, mais je pense que c'est très bien de se recueillir devant François Mitterrand, pour ceux qui le souhaitent, mais ça se fait dans des lieux dédiés, quoi. On ne va pas commencer à faire des exceptions pour François Mitterrand. Essayez de vous faire inhumer dans votre jardin, vous verrez combien c'est compliqué. Bon, donc il n'y a pas de raison que... Et en plus, à l'époque, on avait fait l'enquête en plusieurs, en feuilleton. Donc moi, je racontais le président du parc, le président de la région, Bourgogne, m'avait dit, mais non, jamais de la vie, c'est une invention, vous affabulez, etc. quoi. Puis bon, quand on a sorti les documents officiels, il était obligé de manger son chapeau, on l'a rappelé, on lui disait alors, voilà.
Tu ne veux pas vendre les droits à Netflix?
Non, mais je veux rendre hommage au passage au confrère qui m'avait branché sur ce truc-là. C'était un ancien confrère du Parisien. Alain, si tu regardes ça par hasard, merci à toi de m'avoir aiguillé sur cette affaire. Voilà, ça m'a valu en plus pour recueillir des infos, pour la petite histoire. J'ai traîné un peu dans tous les bistrots du coin où cette histoire était assez connue d'ailleurs. C'est ça qui était assez marrant.
Bon, voilà. Une dernière conclusion, Serge, en 2 minutes sur l'actualité.
Oui. Moi, je pense qu'il faut, dans les tempêtes, il faut garder son calme. Donc, tout le monde. Je pense qu'il faut éviter de s'angoisser. On a suffisamment de raisons objectives d'être angoissé, d'être anxieux. Il faut éviter d'en rajouter. Donc, ce n'est pas la fin du monde qui se prépare cette année. Ce n'est pas la défaite historique de la gauche. Ce n'est pas la victoire du trumpisme. On n'en sait rien. L'histoire, ce sont les hommes qui l'écrivent au jour le jour, hein, et comme ils le peuvent. Donc, rien n'est sûr. Il y a des vents mauvais qui soufflent, mais ce pays, dans son histoire, a montré qu'il était capable aussi de résister aux vents mauvais, d'où qu'ils viennent de l'ouest ou de l'est. C'est ça qui fait l'identité de ce pays, de la République. Donc il faut tous avoir à cœur, quels que soient nos engagements politiques par ailleurs, cette idée qu'il faut défendre la République contre tous ceux qui veulent la détruire. Voilà. C'est le message que je voudrais vous passer pour 2026. Je sais que parfois ça paraît un peu daté, mon message, mais moi j'y tiens. Je pense que la République, finalement, la République et la patrie, c'est le bien commun de tous ceux qui n'ont rien par ailleurs. Voilà. Sur ce, les amis,
Super Serge, merci.
à bientôt.
Ouais, salut Serge, merci à toutes et
Ciao.
à tous. Vous étiez 900 en ligne, c'est super, merci. Et puis demain le Bourbon, Serge.
Et demain, le Bourbon. Vendredi, je serai à l'Assemblée nationale pour la motion de censure. Et je vous ferai certainement un petit short juste après les votes, parce que ce sera intéressant de savoir quand même si tout le monde a bien voté ou pas. Voilà, hein, on verra un peu les tendances. Voilà.
Bon, bah bonne soirée à toutes et à tous.
Ciao.
Salut, salut Serge.